L'esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique. Elle sera consacrée à l'Espagne et nous recevons, pour cette thématique consacrée à l'Espagne, Benoît Pélistrandi. Benoît Pélistrandi, bonjour.
Bonjour Philippe.
Quand je dis nous recevons, c'est François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Benoît Pélistrandi, vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes historien et professeur de chaire supérieure au lycée Condorcet de Paris, vous avez été directeur des études de la Casa Velázquez de 1997 à 2005, et en 2013, vous avez été élu membre correspondant de la Real Academia de la Historia à Madrid. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'Espagne, le dernier en date, Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours, publié en 2013 aux éditions Perrin. Avec vous, nous allons donc nous intéresser à la situation politique et même à la situation générale de l'Espagne aujourd'hui. Les élections législatives de décembre 2015 ont fait naître une crise politique majeure dans le pays, après que le Parti populaire a obtenu une courte majorité au Parlement. Faute de soutien le 22 janvier, après 4 années de gouvernance sans consensus et de nombreux cas de corruption dans les rangs du parti, Mariano Rajoy a exprimé son refus provisoire de briguer l'investiture du Parlement, ouvrant la porte à une coalition de gauche. Le Parti socialiste, le PSOE, déjà fortement affaibli par 4 scrutins consécutifs perdus depuis 2011, échoue cependant à former une coalition avec la formation anti-austérité Podemos. Le 26 juin 2016, les Espagnols sont rappelés aux urnes. La majorité absolue échappe de nouveau au Parti populaire, bien qu'il consolide alors sa position avec 137 députés contre 122 en décembre précédent. Le Parti socialiste, qui avait déjà enregistré un score historiquement bas, perd 5 sièges supplémentaires. Son secrétaire général, Pedro Sánchez, est pointé du doigt par de nombreux dirigeants qui l'accusent de bloquer la formation d'un nouveau gouvernement. Face au risque d'une nouvelle impasse politique qui conduirait à une 3e reconduction des élections en novembre, le PSOE décide de s'abstenir lors du vote de confiance afin de permettre à Mariano Rajoy de gouverner. Pedro Sánchez est contraint à la démission. Le 29 octobre, Mariano Rajoy est ainsi élu président du gouvernement espagnol avec 170 voix contre 111 et 68 abstentions. Après 10 mois de blocage parlementaire, l'émergence de Podemos et de Ciudadanos aura profondément ébranlé le traditionnel bipartisme espagnol, et la reprise économique de l'Espagne n'a pas été compromise par la crise politique. Le pays enregistre en effet une croissance de 3,2%, l'une des plus élevées de la zone euro. À la fin de 2016, le paysage politique espagnol est donc profondément perturbé, alors que le PSOE peine à se remettre de la crise politique qu'il a subie de plein fouet. La débâcle du parti semble alors, selon vous, ouvrir un boulevard à Podemos et, par réflexe, un rôle de rempart et de digue au Parti populaire de Rajoy, alors que le Parti socialiste, le PSOE, continue de se déchirer dans la course aux primaires du 21 mai. Contre toute attente, l'ex-secrétaire général Pedro Sánchez, porteur d'une ligne de gauche plus radicale et réélu par 50,21% des votants face à Susana Díaz, soutenu par l'appareil du parti. Souhaitant réformer en profondeur ce parti, Pedro Sánchez promet alors une opposition ferme au gouvernement et un rapprochement avec Podemos. La formation anti-austérité a également opté pour une ligne radicale en réélisant son secrétaire général, Pablo Iglesias, à 89% lors du Congrès Vista Alegre II qui s'est tenu à Madrid en février. La question de la sécession catalane est revenue sur le devant de la scène, alors que le 9 juin, le président de la communauté autonome, Carles Puigdemont, a annoncé la tenue d'un référendum d'autodétermination unilatérale le 1er octobre, malgré l'interdiction de la Cour constitutionnelle. Madrid a également réitéré son opposition au projet, évoquant une stratégie de tension de la Generalitat et des partis indépendantistes. Benoît Pélistrandi, voilà donc, selon la tradition, un bouquet de quelques questions dont vous choisirez celle qui vous convient s'il y en a une et que vous remplacerez par une autre si elle vous paraît plus appropriée. L'indépendance de la Catalogne, d'abord, que je viens d'évoquer, est-elle possible? Quelles en seraient les conséquences pour le pays? Un rapprochement entre Podemos et l'aile dure de Pedro Sánchez est-il véritablement envisageable? Que révèlent les fractures que connaissent de manière plus ou moins similaire les partis socialistes français et espagnols entre une aile modérée et une aile dure, apparemment irréconciliable, et quelles sont les conséquences prévisibles du Brexit sur l'Espagne? Benoît Pélistrandi, comment on dit en espagnol, up to you.
Merci. Je crois que je commencerai par la question catalane, qui est sans doute la plus inquiétante et la plus porteuse de dangers graves, pas simplement pour l'Espagne, mais j'allais dire aussi pour l'Europe en général. S'il faut revenir un petit peu sur l'historique de cette question, c'est depuis 2010 que la radicalisation des autonomistes, c'est-à-dire de ceux qui portaient une identité culturelle et politique de la Catalogne, mais à l'intérieur du système constitutionnel de 1978, ont choisi une autre stratégie qui est celle de l'affrontement. D'abord pour des raisons économique. En 2010, nous étions au pire de la crise financière en Espagne et la Catalogne, le gouvernement catalan n'avait plus les moyens de sa politique et notamment de sa politique sociale. Et le président de la région catalane à l'époque, Artur Mas, a donc dû aller à Madrid demander un sauvetage financier, mais il y est allé avec dans l'idée de réviser le système de financiation de la région catalane. Et là, Mariano Rajoy lui a imposé un refus absolu. Et du coup, face à ce refus, Artur Mas a choisi de faire une pression politique en disant, eh bien, je vais aller vers la revendication, pas tout de suite, en 2010, il ne parle pas encore d'indépendance, ça sera dans les deux ans qui viendront, mais c'était un petit peu créer les conditions d'un bras de fer pour que finalement Madrid cède et accorde à la Catalogne un financement donc plus favorable. Et puis, le processus, en réalité, lui a échappé des mains. Il se trouve aussi que sa base politique, qui était ce parti démocrate chrétien et centriste, Convergence et Union, s'est effondré et aujourd'hui largement dépassé par les indépendantistes ou les autonomistes radicaux de la gauche républicaine catalane, si bien que à l'intérieur même de la politique catalane, le rapport de force a complètement changé et c'est la gauche indépendantiste qui a pris le dessus sur ce centre historique, autonomiste et démocrate chrétien. Et à partir de ce moment-là, de 2012 à aujourd'hui, on est en permanence dans le rapport de force. Alors, il y a quelques étapes qui sont marquantes. Le référendum du 9 novembre 2014, qui n'est pas exactement un référendum puisqu'il n'est pas officiellement convoqué par la Generalitat, qui est donc le gouvernement catalan, mais par toute une série d'associations qui sont en réalité des écrans par rapport à la Generalitat. Ce référendum qui a mobilisé un tiers de l'électorat catalan, 80% de ceux qui se sont rendus aux urnes ont voté pour l'indépendance. Donc ça veut dire à peu près 2,5 millions de personnes qui sont allées voter et 2,1 millions qui ont voté oui à l'indépendance. Il y a normalement aucune reconnaissance légale à ce référendum. Ça a été suivi par la dissolution à nouveau du Parlement catalan et une montée en force, là encore, des indépendantistes. Si bien qu'aujourd'hui, le nouveau président catalan, Carles Puigdemont, dépend de 10 députés qui proviennent de l'extrême gauche, la candidature d'unité populaire, la CUP, qui sont indépendantistes, bolcheviques et anticapitalistes. Et alors eux, ils veulent l'indépendance de la Catalogne, la sortie de l'Europe, la fin de l'euro. Et vous avez dans cette même majorité des gens qui procèdent en fait de l'ancienne bourgeoisie catalane tout à fait modérée et raisonnable. Donc c'est vraiment l'alliance de la carpe et du lapin. Il faut essayer de faire fonctionner tout ça. Et la seule chose qui fait fonctionner tout ça, c'est cette revendication d'indépendance. Normalement, la prochaine échéance, c'est le 1er octobre 2017, avec à nouveau, cette fois-ci, un référendum convoqué par la Generalitat, c'est la nouveauté. Et la question, on la connaît, elle a été dévoilée par le président Puigdemont, c'est « Souhaitez-vous que la Catalogne devienne indépendante sous forme de république ?» Et si effectivement ce référendum se tient, il faudra regarder comment il se tient, quel en est le résultat. Et ce qui m'inquiète, c'est que dans ce bras de fer, chacun sait pertinemment qu'on va à l'affrontement et jusqu'à présent, les conditions de l'affrontement ont été durcies et le choc n'a pas encore eu lieu. Alors est-ce que le 1er octobre sera à nouveau ce choc que l'on attendait pour le 9 novembre 2014, puisqu'il n'a pas eu lieu, ou est-ce qu'au contraire, on va trouver quelque chose qui ne résoudra pas la question catalane, mais la maintiendra comme une inflammation brûlante ?
Nicole Nisotto.
Oui, toujours sur cette question, ce qui est frappant, c'est que 2010... l'année où vous situez le début de cette revendication catalane, c'est aussi à peu près l'année où l'autre mouvement sécessionniste, le mouvement basque, se calme. En tout cas, la partie militaire, l'ETA, décide d'arrêter en 2011 la violence armée. Elle a d'ailleurs rendu les armes cette année, au mois d'avril ou mars, je ne sais plus, à la France. Et donc, comment vous expliquez cette espèce... On a l'impression de vase communicant qu'entre un mouvement indépendantiste, sinon se calme, en tout cas cesse le passage à la violence armée pour devenir un mouvement politique, c'est l'autre mouvement, le mouvement catalan, qui se radicalise, peut-être avec un risque de passage à la violence armée. Ma question, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de commun ou de différent entre ces deux mouvements, qui quand même réduirait l'unité de l'Espagne à pas grand-chose? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un risque quand même de violence civile, de guerre civile en Espagne sur cette affaire?
Benoît Pellistrandi.
Ce qu'il y a de commun, c'est cette difficile définition de l'identité espagnole et la reconnaissance d'une plurinationalité ou d'une, pardon pour le néologisme qui n'est pas beau, d'une pluriculturalité de l'État espagnol. Si bien qu'effectivement, il y a une identité basque qui s'est revendiquée, qui s'est construite, et une identité catalane. Ce qui est très différent, ce sont les processus qui ont été suivis. Le terrorisme de l'ETA a commencé dans les années 60 et a représenté un défi terrible pour la démocratie espagnole. Parce que je rappelle que le bilan de l'ETA, entre 1968, qui est la date du premier assassinat commis, donc on est encore sous Franco, jusqu'en 2010, la dernière victime, et c'est sur le territoire français, il y a près de 900 morts. Mais les années de violence intense, c'est entre 1976 et 1987, où là on est sur des chiffres qui oscillent entre 40 et 90 morts par an. Et je crois, certes maintenant, toutes les démocraties européennes savent ce qu'est le terrorisme, mais je crois qu'on a souvent sous-estimé, en tout cas en France, la capacité de résistance de la jeune démocratie espagnole par rapport à ce terrorisme. Et là où il y a un lien aussi avec tous les événements géopolitiques, c'est que les attentats du 11 mars 2004 à Madrid, qui étaient des attentats islamistes, donc qui n'avaient rien à voir avec la question de l'ETA, ont d'une certaine façon presque... Et là encore, je m'excuse pour la formule que je vais utiliser, mais disqualifier le terrorisme à des fins de politique intérieure. Et l'ETA s'est trouvé comme dans une impasse parce que il y avait eu effectivement une sorte de résistance de la société espagnole au terrorisme. Et là, le 11 mars 2004 représentait complètement autre chose et l'ETA a bien vu qu'il n'y avait pas d'espace. Donc ça a pris 7 ans jusqu'au cessez-le-feu définitif de 2011. Tous les gouvernements espagnols de Felipe González, de José María Aznar et de José Luis Rodríguez Zapatero avaient tenté de négocier avec l'ETA, en tout cas au moins négocier un cessez-le-feu, et Zapatero l'a obtenu. Et ça, je crois qu'il faut quand même lui rendre hommage parce que les conditions dans lesquelles il a essayé de l'obtenir n'étaient pas faciles. Et puis, du coup, ça libère le processus politique au Pays Basque, où d'une certaine façon, le Parti Nationaliste Basque, qui a longtemps été en position hégémonique et qui aujourd'hui est un petit peu contesté, se trouve libéré de cette hypothèque violente. En revanche, les choses continuent d'évoluer au Pays Basque. Vous savez qu'il y a notamment une question qui demeure, qui est celle de la territorialité de ce Pays Basque. Donc nous avons les trois anciennes provinces, Guipuscoa, Biscaye et Álava, qui forment la communauté autonome basque-espagnole. Alors certains revendiquent la partie basque française, là je crois qu'il n'y a pas d'évolution à attendre, mais il y a la question de la Navarre, c'est-à-dire la région autour de Pamplune. Et aujourd'hui en Navarre, vous avez une coalition qui est menée par l'extrême-gauche Podemos et Bildu, qui est un groupe proche des thèses que portait l'ETA auparavant. Et la présidente de la région vient de demander un référendum pour le rattachement de la Navarre au Pays Basque. Et ça, c'est possible parce que la Constitution de 1978 avait laissé cette question ouverte. Bon, on est vraiment au tout début d'un hypothétique processus, alors qui entraîne beaucoup de questions. Tout récemment, le roi d'Espagne est allé en visite officielle en Navarre, et la présidente de la région de Navarre a profité de l'occasion justement pour dire qu'elle souhaitait aussi une république en Navarre. Et par exemple, il y a un prix Prince de Viana, qui est le titre héréditaire pour l'héritier du trône en Espagne, donc pour la Navarre. Et elle a annoncé que les prix Princesse de Viana ne serait plus remis par la famille royale, mais par les autorités gouvernementales de Navarre. Donc, on va avoir quand même des évolutions, mais les Basques sont des gens pragmatiques, et aujourd'hui, ils ont une position idéale. Ils sont 5 députés du Parti nationaliste basque à la Chambre à Madrid. Ils ont négocié avec Mariano Rajoy le budget 2017, et ils viennent d'obtenir pour 5 ans un financement dans des conditions absolument idéales, si bien que, j'allais dire, la prospérité et l'argent des Basques restent au Pays Basque. Donc, la question financière est temporairement réglée. Et ce qui est très curieux, c'est que cette droite espagnole qu'on qualifie souvent de centralisatrice et d'autoritaire s'est montrée beaucoup plus girondine. Mais c'est sans doute aussi qu'elle a besoin de ces 5 voix pour vis-à-vis des Basques.
Thierry Pêche.
Et la constitution espagnole est un objet étrange quand même, parce que je pense que c'est une des seules constitutions européennes qui n'a pas précisé la forme territoriale de l'État. Il y a des provinces autonomes, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'indécision de la transition, peut-être nécessaire, tous les germes du mal qu'on voit se développer aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce d'autorisation générale au séparatisme qui pourrait demain concerner d'autres provinces, d'autres régions. On peut difficilement dire que l'Espagne est un régime fédéral, comme on le dit par exemple de l'Allemagne, ou même du Royaume-Uni par exemple. Bon, donc ça c'est mon premier point. Mon second point, c'est que vous décrivez la radicalisation des mouvements séparatistes, notamment catalans, à partir d'une analyse de l'évolution des positions partisanes. Mais comment s'expliquer la radicalisation des esprits dans la population ? Quand on voyage à Barcelone, ça vous arrive aux uns et aux autres, on est frappé de tous ces drapeaux catalans partout, aux fenêtres, aux balcons, on a le sentiment que c'est la cause la mieux partagée du monde dans cette partie du monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans les esprits pour que cette passion séparatiste s'empare? Bien sûr, il y a toujours eu des mouvements autonomistes, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça prenne cette envergure?
Benoît Pellistrandi.
Alors, sur la question de la forme de l'État espagnol, d'abord, il y a 17 communautés autonomes, donc il y a un statut territorial égal dans toute l'Espagne. Aujourd'hui, au tout départ, il y avait la reconnaissance de 3 régions historiques, qui étaient la Catalogne, le Pays Basque et la Galice, et auxquelles on a donné plus rapidement un statut d'autonomie qu'aux autres régions, pour une raison simple, qui était qu'elles avaient déjà, sous la Seconde République, entre 1931 et 1939, joui d'un statut d'autonomie. C'est le terme historique vient de là. Et là, c'était un coup de génie de la part d'Adolfo Suarez que d'introduire une part de légitimité de la Seconde République dans le système constitutionnel de 1978, qui est un moment de transaction entre plusieurs Espagnes. Mais ensuite, on a fixé la carte des autonomies, non sans difficulté, parce que vous aviez des situations parfois absurdes. La petite province de Ségovie, qui est donc au nord-ouest de Madrid, revendiquait d'être à elle seule une communauté autonome. Donc on aurait une communauté autonome de 70 000 habitants. Donc il a fallu faire cette carte, donc on a abouti à ces 17 communautés autonomes. Et puis progressivement, et la date clé c'est 1996, toutes les communautés autonomes ont eu le même système de compétences. Par exemple, les questions de santé ont été transférées aux communautés autonomes, une partie des questions d'éducation, avec quelques variations s'il y a une langue régionale reconnue comme co-officielle, avec le castillan. Et c'est pour ça qu'aussi entre 1996 et l'an 2000, s'opère au Pays Basque et en Catalogne une revendication nouvelle qui consiste à dire « mais nous sommes dilués ». Et notre spécificité catalane et basque, qui est très différente de la spécificité andalouse ou castillane, et ça on peut leur accorder, n'est pas reconnue. Et c'était la fameuse expression de Jordi Pujol, qui a été le président inamovible de la Catalogne entre 1980 et 2003, qui a dit « on donne du café à tout le monde, café para todos ». Et d'une certaine façon, l'expression est terrible, parce qu'il était en train de dire « nous on veut un café sucré alors qu'on donne les mêmes avantages à tous ». Alors, certes, il y a une forme, j'allais dire, de rivalité régionale qui pousse les Catalans et les Basques à vouloir plus. Et c'est là où cette première question rejoint la seconde. Comment expliquer ce qui est en train de se passer en Catalogne et cette radicalisation des esprits ? Alors, d'abord, la société catalane est beaucoup plus divisée qu'on ne le croit. Et quand on regarde l'évolution à la fois des votes et des sondages, on voit que le sentiment indépendantiste n'est pas majoritaire. J'ai eu une évolution. En 2013, ce sont des sondages publiés par la Généralité de Catalogne. Le sentiment indépendantiste arrive à 48,5%. Aujourd'hui, il est retombé à 37,3%. Et lors des élections, aux dernières élections de 2015, la majorité donc qui autonomiste et indépendantiste n'obtient que 47,8% des voix. Quand je dis que, c'est parce qu'on est dans une logique indépendantiste, hein, et donc ça serait l'idée de proclamer une indépendance avec 47,8% des voix. Mais grâce à la répartition des sièges, on a la majorité absolue. Encore qu'ils dépendent de ces fameux 10 sièges, hein, de la candidature d'unité populaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce résultat, c'est en 2015 et 2017. C'est-à-dire que c'est aussi le fruit de 40 ans de politique éducative. Nous sommes en 1977, il y a un accord entre Adolfo Suárez et les nationalistes catalans. Adolfo Suárez accepte que les compétences liées à l'enseignement et à l'éducation soient une compétence régionale. Quelque chose que la Seconde République espagnole avait refusé. La Seconde République espagnole avait donné de l'autonomie à la Catalogne, mais était, sur le plan éducatif, jacobine. Tandis que là, on a eu du coup l'éducation d'une jeunesse catalane qui a été formée dans un esprit nationaliste. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir, à la fois sur le plan, par exemple, linguistique, ce sont les jeunes qui parlent beaucoup plus majoritairement catalan que les personnes âgées. Et puis, il y a eu finalement la création d'une idéologie nationale catalane. C'est d'ailleurs très intéressant parce que, et comme c'est mon cas, j'étudie le 19e, le 20e et du coup maintenant le 21e qui est bien commencé, c'est passionnant de voir qu'aujourd'hui en Catalogne, vous êtes vraiment face à ce qui s'est passé au 19e en Allemagne quand il a fallu créer une conscience nationale allemande ou que vous voyez tous les mouvements nationalistes dans l'Empire austro-hongrois. Donc on feint de découvrir que le nationalisme est quelque chose de vivant et c'est très intéressant parce que ça passe exactement par les mêmes processus, des associations culturelles, la revendication d'une histoire, la création de manuels d'histoire dont le propos est quand même très orienté. Mais n'oublions pas aussi donc ce que je disais, cette grande division de l'opinion publique espagnole et catalane, et je le vois notamment dans les universités où beaucoup de collègues me disent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus dire. Et j'avais été frappé, je raconte juste une anecdote, j'ai été invité à Barcelone en 2015, après avoir participé à une émission de télévision en France, où j'avais évoqué la radicalisation de l'indépendantisme catalan, ce qui m'avait valu dans la presse catalane le lancement d'une polémique. Et les collègues catalans qui m'ont invité m'ont dit « Mais c'est que nous ne pouvons plus parler, on a besoin de gens extérieurs qui puissent briser une forme de doxa officielle qui est en train de s'installer. »
François Bujon de l'Étang.
Nous venons de parler du défi que pose à l'unité du pays la Catalogne et avant elle le Pays basque. Ça pose d'une façon générale le problème plus large de la vigueur des institutions espagnoles. Et j'étais très frappé, vous avez parlé tout à l'heure à propos du terrorisme de l'ETA, vous avez utilisé l'expression « la capacité de résistance de la jeune démocratie espagnole ». Je vous cite. C'est en effet très frappant pour que les institutions démocratiques extrêmement jeunes, encore très fragiles, aient été soumises à pareils défis et y aient finalement résisté. Alors, si on s'éloigne simplement un instant, pour l'instant, du problème de l'unité nationale, est-ce que ça n'est pas vrai d'une façon générale de la vie politique en Espagne ? C'est-à-dire que nous voyons un pays encore jeune, encore fragile, qui a traversé une crise économique difficile et qui vient de traverser une grande crise politique, 10 mois sans gouvernement, après tout. Je sais que les Belges avaient fait mieux peu de temps auparavant, mais c'est toujours très frappant de voir une démocratie parlementaire sans gouvernement continue à tourner malgré tout. Et pourtant elle tourne, n'est-ce pas, comme dirait Galilée. Alors, voilà, la question que je voulais vous poser est la suivante. Voilà un pays qui est face à un défi très important en provenance de la Catalogne. Voilà un pays qui voit les cartes politique redistribuée sur la scène parlementaire, puisqu'il y avait deux grands partis, le Parti Populaire et le Parti Socialiste, qui représentaient 80 ou 85% à peu près des suffrages il y a 20 ans, et qui aujourd'hui sont tombés à peu près à un peu moins de la moitié des voix. L'apparition du populisme, Podemos, Ciudadanos, la fragmentation du paysage politique, 10 mois sans gouvernement, ils ont failli avoir 3 élections législatives en quelques temps, et malgré tout, les institutions résistent. Quel est votre jugement sur la vigueur de la démocratie espagnole et sur la force des institutions ?
Benoît Pélistandé.
C'est une très bonne question, parce que, effectivement, démonstration a été faite de la pertinence de la Constitution de 1978. Là où je ne partagerai pas tout à fait votre expression, c'est qu'il y a eu, en réalité, un pays qui avait un gouvernement, mais sans parlement. Et c'est presque l'idéal pour un exécutif. Parce que
vous êtes, les affaires courantes.
Voilà, il expédie les affaires courantes, mais c'est formidable parce que vous n'avez aucun contrôle parlementaire, vous n'avez personne pour vous embêter. Et le gouvernement Rajoy avait eu la sagesse de faire voter le budget 2016 avant la dissolution de 2015. Et vous avez un mécanisme qui permet automatiquement de prolonger le budget. Donc, en réalité, il avait devant lui 2 ans où on pouvait faire tourner la machine. La situation dans laquelle on s'est trouvé, c'est-à-dire un Parlement incapable de désigner un chef de gouvernement, avait été prévue par la Constitution de 1978. Et c'est ça qui est formidable. C'est l'article 99 qui dit très clairement, ben, si au terme, après un premier vote d'investiture, 2 mois après, aucun candidat n'est investi, alors on procède à de nouvelles élections. Et c'est ce qui s'est passé en février 2016, quand Pedro Sanchez a accepté la proposition du roi d'essayer de former le gouvernement. Il est allé devant le Parlement, il n'a pas eu la majorité, et à partir de ce moment-là, le compte à rebours était déclenché, et au 31 mai, on a pu donc convoquer des élections législatives. Et Mariano Rajoy a été élu sur le fil du rasoir le 30 octobre, parce que le 31 octobre, s'il n'avait pas été élu, eh bien le Parlement était automatiquement dissous et on avait effectivement ces 3e élections générales qui ont pu être écartées. Alors, cette constitution, elle a été très décriée, notamment aujourd'hui par Podemos. Et la gauche radicale ne cesse de dire que la transition a été en réalité une forme de corsetage de la démocratie, qu'il a fallu accepter beaucoup de l'héritage franquiste, et que les institutions ne sont pas fondamentalement démocratiques. D'ailleurs, un des symboles de ce corsetage, c'est la monarchie, hein, puisqu'elle avait été voulue par Franco et pas nécessairement par le peuple. Or, cette analyse ne résiste pas à la réalité des faits. On a une constitution extrêmement démocratique, qui a prévu toute une série de contre-pouvoirs. Il y a par exemple le rôle du tribunal constitutionnel. C'est un tribunal constitutionnel qui a progressivement acquis une très grande autorité jusqu'à ce que les deux partis, socialistes et populaires, l'instrumentalisent, parce que les juges du tribunal constitutionnel doivent être élus par le Parlement à la majorité des 3/5. Et quand il y a eu le gouvernement Zapatero à partir de 2004, le Parti populaire est allé vers une opposition systématique et une obstruction, si bien qu'ils n'ont pas accepté de remplacer les juges en fin de mandat. Et là où ce sont des choses qui finalement apparaissent comme d'abord de la petite politique, mais ont des effets durables, très graves. Parce que en 2010, quand le tribunal constitutionnel invalide le préambule du nouveau statut d'autonomie de la Catalogne qui avait été voté en 2006 et qui commençait par la nation catalane. Et donc le tribunal constitutionnel dit il n'existe pas de nation catalane. C'est un tribunal dont 4 de ses 9 membres étaient hors mandat. Et donc effectivement, il y a moyen de contester ce jugement. Et là, le Parti populaire et le Parti socialiste portent une responsabilité écrasante dans la fragilisation des institutions de la démocratie. Il faudrait ajouter à cela la corruption politique généralisée. Le Parti socialiste a été emporté par toute une série d'affaires, comme aujourd'hui le Parti populaire. Et il y a eu une motion de censure déposée par Podemos contre Mariano Rajoy, où les débats ont été d'une grande vigueur, et Pablo Iglesias n'a pas hésité à dire, de toute façon, vos amis sont des criminels, Ils sont en prison, et ce n'est pas faux. Vous avez quand même l'ancien président de la communauté de Madrid, donc vraiment quelqu'un de très important, qui était une pièce essentielle du Parti populaire, qui a été en prison. L'ancien premier adjoint de la mairie de Madrid. Enfin, vous avez toute une série de personnes, et on est en train de se rendre compte que le financement du Parti populaire a été illégal, mais sur 20 ans. Et il y a un vrai problème lié à la corruption. Si bien que toutes ces critiques affaiblissent considérablement l'image que l'on a des hommes et des femmes chargés de faire vivre cette démocratie, alors même que les institutions se sont révélées plus solides que les hommes, effectivement, chargés de l'incarner. Et un dernier mot, la critique a été suffisamment forte pour emporter aussi le roi Juan Carlos, qui a été quand même contraint à l'abdication en juin 2014. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment son fils, qui donc maintenant règne depuis 3 ans, s'est attaché à reconstruire l'image de la monarchie, l'honorabilité de la figure royale, justement pour reconstruire, sinon la confiance dans les institutions, au moins le fait qu'elles puissent à nouveau mériter la confiance des citoyens espagnols.
Nicole Nézotto.
Oui. Peut-être un peu de prospective, parce que moi, ce qui me frappe quand on regarde l'Espagne, c'est qu'il y a quand même des dynamiques très contradictoires. Il y a une dynamique économique qui est positive, même, je crois que vous l'avez qualifiée d'insolente dans un de vos papiers, avec effectivement un taux de croissance que Philippe a rappelé, que beaucoup de pays enviraient. Et une baisse très importante du taux de chômage par rapport aux années de grande crise qui était l'année 2013. Il y a, à l'inverse, une dynamique sociale qui est inquiétante, parce que ces bons chiffres économiques cachent quand même une augmentation très forte des inégalités, une crise des régimes sociaux de retraite et de sécurité sociale, cache également un émiettement du marché du travail, ce qui fait que la réduction du taux de chômage, c'est simplement parce que des gens ont des petits contrats de 3 ou 4 mois, c'est pas du tout parce qu'il y a une remise au travail de la société espagnole. Et donc, ça c'est le deuxième dynamique. Et puis troisièmement, on a cette dynamique régionale, séparatiste, qui est explosive. Et donc, entre ces trois dynamiques, lesquelles vont l'emporter? Est-ce qu'on aura une Espagne qui sera plutôt marquée par la prospérité économique et la stabilité démocratique? Ou est-ce qu'on aura une Espagne qui sera plutôt marquée par des crises sociales de nouveau importantes et des crises politiques peut-être violentes?
Benoît Pellistrandi.
Vous avez raison d'insister sur le redressement économique en cours, qui est assez spectaculaire, et vous l'avez dit, on est passé de 5,5 millions de chômeurs en 2013, au point haut de la crise, à 3,5 millions aujourd'hui, même si la qualité de l'emploi pose question, puisqu'on a même des contrats de quelques jours. Hein, et en plus, on a un chômage qui est très dépendant de la saison touristique, donc pendant le premier semestre, il y a des baisses très, très nettes, et puis ça repart un petit peu dans la seconde partie de l'année. Les éléments positifs, c'est de voir quand même qu'au plus fort de la récession, on était tombé à 16 millions de cotisants pour la sécurité sociale, qu'on est remonté à 18,5 millions aujourd'hui. Et l'objectif de la fin de législature qu'a vendu Mariano Rajoy, c'est 20 millions. Si on arrivait à 20 millions, ce serait un chiffre historique. Les tout derniers chiffres montrent aussi, par exemple, que on est au plus haut pour les femmes cotisant à la sécurité sociale. Aujourd'hui, 8,5 millions de femmes espagnoles cotisent à la sécurité sociale. Et ça, ce sont quand même des évolutions très fortes qui signalent des... non pas la modernisation, parce que le terme est trop large, mais de nouvelles dynamiques sociales en Espagne. Mais cette croissance, ce retour de la prospérité... il reste hypothéqué par toute une série d'interrogations structurelles, notamment le système bancaire. On a vu encore au tout début du mois de juin l'effondrement d'une banque, le Banco Popular, qui a été rachetée in extremis par le Banco Santander pour 1 euro. Et on se rend compte, une fois encore, que le système bancaire espagnol est d'une grande fragilité et que la sincérité des comptes de ces institutions n'est pas du tout acquise. Et ce sont quand même des éléments très graves. Alors, peut-être que les investisseurs internationaux regardent ça d'un petit peu loin, mais j'allais dire l'espagnol moyen qui se pose la question de savoir est-ce que le peu d'argent que j'ai en banque est encore garanti. Donc, on a vraiment... Et cette question est une fois encore liée au comportement des élites. Là encore aussi, au mois de juin, on a appris que Rodrigo Rato, ancien ministre de l'économie du gouvernement Aznar, ancien patron du FMI, et ensuite patron emblématique de la fusion des caisses d'épargne et création d'une grande banque, Bankia, eh bien, le procureur demande 5 ans de prison pour cet homme qui, effectivement, a maquillé les comptes de Bankia au moment de la mise sur le marché, et où on se rend compte que là, pour le coup, il y a eu une complicité de toutes les institutions de contrôle pour mettre sur le marché des actions à 19 euros qui en valaient 30 centimes un an après. Et donc, ça a ruiné des milliers d'épargnants. Donc, il y a une très grande méfiance qui s'est installée et qui, je dirais, est entrée au cœur de la dynamique sociale et culturelle espagnole. Vous ajoutez du coup à cela les grandes interrogations sur l'avenir du pays. Peut-être que les Catalans, in fine, voteront pour le maintien de la Catalogne en Espagne. Mais si vous interrogez les autres Espagnols, peut-être voteraient-ils pour que les Catalans aient leur indépendance et que, d'une certaine façon, chacun ait la paix chez soi. Je suis frappé de voir comment, effectivement, en 4 ans, une sorte de... non pas de haine, mais de crispation s'est créée entre les Catalans et les non-Catalans. Et c'est très mauvais pour un pays. Alors, c'est assez difficile, finalement, de faire de la prospective. Je me risquerais quand même sur un point, c'est que si le Parti populaire, qui est actuellement majoritaire et qui consolide un vote important, n'est pas capable de se rénover et n'est pas capable, effectivement, de nettoyer ses écuries d'Augias en termes de corruption, il sera emporté lors des prochaines élections. Et à ce moment-là, toutes les incertitudes qu'on a évoquées et qu'on a vues à l'œuvre en 2016 seront multipliées. Donc il y a une responsabilité historique pour le Parti populaire, mais ce n'est pas du tout dans le tempérament de Mariano Rajoy que, un, de se sacrifier et, deux, de réformer son parti.
Oui, j'allais vous dire que la réponse à votre question était dans votre question. un mot sur la corruption, qui est impressionnante. Vous en avez donné des exemples. Est-ce que on peut la dater ? Est-ce qu'il y a un moment où les choses sont parties en vrille et ont abouti, ou est-ce qu'elle a été consubstantielle au fonctionnement? Elle existait aussi sous Franco. Et est-ce qu'au fond, elle a été un peu enveilleuse pendant un moment avant de ressurgir et de toucher toutes les formations?
C'est peut-être un effet de la démocratie que de rendre plus transparent ce qui se passe dans les structures de pouvoir, que ce soit national ou que ce soit local. Donc, un, il y a eu de la corruption sous Franco, beaucoup, mais c'était le mode de fonctionnement. D'ailleurs, c'est un mode de transaction pour qu'une société soumise à une dictature fonctionne. Avec la démocratie, il y a eu la création de cet échelon régional et municipal qui multiplie l'occasion de la corruption. Et il y a une corruption au niveau national, peut-être moins importante que la corruption territoriale. On le voit par exemple aussi en Catalogne, où finalement Jordi Pujol est quand même accusé d'avoir détourné entre 850 millions et 1 milliard et demi d'euros. Je veux dire, enfin, faut voir les sommes dont on parle. Donc, cette corruption, elle a accompagné toute la démocratie espagnole. Et je pense aussi que la démocratie espagnole et les Espagnols en général devraient quand même réfléchir à leur propre responsabilité. Il est toujours facile d'accuser la classe politique ou l'élite économique d'être corrompue. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et on le voit dans le fonctionnement, j'allais dire, de l'activité économique. La modernisation de la fiscalité espagnole date de la fin du XXe siècle. L'introduction de la TVA, c'est 1986. Eh bien, vous pouvez aujourd'hui, en Espagne, construire quasiment une maison sans payer de TVA. On se met d'accord, on accepte tous les paiements liquides. Le passage à l'euro en 2002, l'administration fiscale espagnole avait dit « on ferme les yeux sur les masses d'argent liquide qui viendront ». On pouvait acheter une voiture jusqu'à l'équivalent de 70 000 euros en liquide. Alors, actuellement, il y a des tentatives, mais qui restent extrêmement modestes, parce que je dirais que c'est quand même un mode de fonctionnement de la société espagnole, et que les systèmes de contrôle restent malgré tout assez faibles.
Thierry Pech.
On peut ajouter à ça d'ailleurs que l'euro a été dans la décennie 2000 une source d'argent facile, de crédit extrêmement bon marché qui n'avait aucune corrélation avec le niveau de l'économie réelle en Espagne. Enfin, c'est tout toute la tragédie de la crise de l'eurozone. Vous avez eu raison, je crois, de tempérer le succès économique espagnol parce que si les flux sont impressionnants, les stocks, le reste aussi. Je crois que le chômage est toujours supérieur à 15%. Il doit être quasiment...
Oui, on est à 16%, entre 16 et 17%.
Voilà, c'est quand même un chômage. C'est quasiment un record d'Europe avec la Grèce. Le déficit public est à 5%. Déficit des administrations publiques espagnoles. Donc très, très au-delà de ce que Maastricht demande. Tout ne va pas bien en Espagne, même si la dynamique est repartie dans le bon sens, avec une composante de rattrapage qu'il ne faut pas ignorer. Les facteurs de risque sont toujours là, et ma question, elle porte sur la situation de l'exécutif. Les institutions espagnoles ont bien résisté à des situations très, très difficiles, mais cet exécutif est très faible, finalement, parce qu'il doit négocier ses majorités texte par texte, et il a devant lui des échéances. Nicole en a rappelé quelques-unes concernant la sécurité sociale, les retraites, mais le prochain budget ne sera pas simple. Au fond, tout de même, les institutions sont solides, mais elles n'ont pas été capables, en tout cas, de donner une majorité, de rendre le pays gouvernable dans cette période. Et est-ce que ça n'apporte pas un peu un bémol à l'appréciation qu'on peut porter sur elle? Et dernière question, il y a un parti politique, je crois, Ciudadanos, je parle sous votre contrôle parce que je n'ai pas du tout observé d'assez près les choses, mais qui avait fait fond sur cette question de la corruption. Est-ce qu'il peut s'ouvrir en Espagne demain une sorte de boulevard politique pour un parti qui dirait il faut en finir avec ces vieilles manières, ces clientélismes, ces cohortes d'obligés autour de l'argent public local? Est-ce que là, il y a une voie pour un parti du type Ciudadanos ou un autre, selon vous?
Benoît Pellistrandi.
Sur la question économique, effectivement, il y a encore beaucoup d'incertitudes. La question des retraites est posée. En l'an 2000, le gouvernement Aznar avait créé un fonds de réserve pour la sécurité sociale et le paiement des retraites, qui avait atteint en son point culminant 60 milliards d'euros de réserves. Et aujourd'hui, il est quasiment épuisé. Et le gouvernement a largement puisé depuis 2013 dans ce fonds de réserve, alors que normalement on ne devait y toucher qu'à partir de 2030. Et il faut à nouveau réformer le système des retraites espagnoles. Or, la configuration politique empêche toute réforme structurelle, ça c'est très clair. Dans la question de la négociation du budget, on vient de voir qu'il y a un député canarien, un seul, et qui à lui seul, parce que c'était la voie clé pour passer de 175 à 176, a obtenu des avantages absolument considérables pour les Canaries et qui prouve bien effectivement l'état de faiblesse du gouvernement de Mariano Rajoy. Et ça nous renvoie du coup à cette vieille habitude qui a été prise depuis 1993 quand le Parti Socialiste a perdu la majorité, qui est devenu le partenaire nécessaire à la consolidation des majorités, ce sont les partis nationalistes. D'abord les Catalans, puis les Basques, et puis donc ces petits partis canariens ou autonomistes. Si bien que vous avez un effet de levier avec moins de 1% des voix au niveau national, votre député permet de rapporter sur la région autonome des flux absolument considérables d'investissements. Et de ce côté-là, c'est, je dirais, une faiblesse de la démocratie espagnole qui a toujours refusé de mettre une barre d'éligibilité. On n'est pas dans le système allemand où il faut passer les 5% au niveau national. Or, il y avait un grand baron socialiste qui l'avait proposé au début des années 2000, qui était le président de la région Extrémadure, Rodríguez Ibarra. Et on peut dire que si vraiment cette décision avait été prise, toute l'histoire politique de l'Espagne en aurait été transformée et le pouvoir central aurait été libéré du poids de ces partis nationalistes et régionaux qui effectivement gangrènent son autorité et favorisent ce clientélisme. Alors, sur l'évolution possible de Ciudadanos, je dirais que la difficulté pour Ciudadanos, c'est qu'ils sont concurrencés par Podemos. C'est-à-dire il n'y a pas un seul parti qui arrive sur cette offre de rénovation complète. Et Podemos aussi porte un discours de rénovation démocratique, de rénovation sociale, de rénovation, j'allais presque dire aussi morale. Il y a dans les discours de Pablo Iglesias et des autres l'ambition de transformer les comportements de la société espagnole, en appelant beaucoup aux comportements citoyens, avec effectivement un modèle alternatif. Et donc, la grande difficulté, c'est que si Podemos est capable de phagocyter le Parti Socialiste, et on l'a vu, Ciudadanos n'a pas encore été en mesure, j'allais dire, de bénéficier d'un transfert massif de voix venant du Parti Populaire vers Ciudadanos. Et ce que les élections de 2015 et de 2016 ont montré, c'est que la droite résiste. Et on a été surpris en juin 2016 par le sursaut du Parti Populaire qui a, aucun sondage ne l'avait vu, qui a gagné 15 députés, qui est passé de 28% des voix à 33. Alors certes 33, c'est pas encore la majorité, mais c'est quand même une minorité de blocage importante. Et Ciudadanos reste collé à 13%. Alors vous allez me dire, 13, c'est déjà pas mal quand on vient de zéro, mais entre 13 et 23, le basculement ne s'est pas opéré. Les derniers sondages montrent effectivement un affaissement du Parti Populaire qui tomberait autour de 28 et Ciudadanos qui monterait à 18. Mais il faut les prendre avec prudence parce que c'était les chiffres qu'on avait pour les élections de 2015 et qui ne se sont pas révélés justes.
François Bujon de l'État.
Je voudrais que nous disions un mot d'Europe. Tout le monde se souvient de l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne. C'était d'abord le couronnement d'un cheminement de l'Espagne vers le retour au sein du Club des Nations démocratiques. C'était un moment finalement positif, bien qu'il y ait eu des remous agricoles, notamment, je me souviens très bien, à cette époque-là. Et on voit aussi, en se promenant en Espagne, à quel point ce pays a bénéficié finalement de la largesse, des largesses des fonds structurels européens, ce réseau d'autoroutes magnifique, cette infrastructure. Où en est le sentiment européen dans l'Espagne d'aujourd'hui? Et si on peut rêver, après tout, s'il y a un effort de relance européenne, si les efforts conjugués de M. Macron et de Mme Merkel permettent de penser à une relance européenne, au moins dans certains domaines, ou à certains nouveaux efforts, dans le domaine de la défense notamment, si le Brexit devient soft plutôt que hard, on peut rêver à une relance européenne. Quel pourrait être l'apport de l'Espagne à une relance européenne et quelle part l'Espagne prendrait-elle justement à ce rajeunissement, disons, de l'Europe?
Sur le même sujet, Nicole Nézotto.
Oui, juste pour compléter cette question, l'Espagne occupe un statut un peu curieux en Europe de grande puissance muette, de grande puissance très discrète. C'est le quatrième puissance de l'Union européenne. Or, il n'y a jamais, peut-être je peux me tromper, mais dans mon souvenir, il n'y a jamais eu d'initiative, d'idées politiques, de projets politiques venant des Espagnols. Comment expliquez-vous aussi ceci?
Benoît Pellistrandi.
C'est un vrai paradoxe parce que les Espagnols sont euro-enthousiastes. Oui. Ils l'ont été et vous aviez raison de rappeler cette forte signification historique que représentait l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne. À l'époque, c'était, on fermait un siècle d'isolement et de décadence. Toute l'histoire culturelle et intellectuelle du XXe siècle, c'était il fallait renouer avec l'Europe et qu'on cesse de dire que l'Afrique commençait aux Pyrénées. Donc l'Espagne est redevenue européenne, profondément européenne. Elle l'a montré au moment du référendum constitutionnel, sur le projet constitutionnel en 2005. Les Espagnols ont voté à 75%. Pour la ratification. Mais le gouvernement Zapatero a été piégé par la droite qui n'a pas accepté d'apporter ses voix. Il n'y a eu que 40% de participation. Donc on n'a pas vu effectivement ce sentiment euro-enthousiaste se manifester dans les urnes. Les Espagnols savent ce qu'ils doivent à l'Europe, y compris en termes de modernisation économique, d'infrastructure. Je dirais presque aussi que l'Espagne, ayant tellement bien réussi, elle est devenue peut-être une sorte de... peut-être une des raisons pour lesquelles ensuite les autres élargissements ont moins bien fonctionné. C'est qu'on s'est dit, si tout fonctionne aussi bien que pour l'Espagne, allons-y, ça va marcher. Et les autres pays, ça a beaucoup moins bien marché. C'est vrai que je crois que l'intégration espagnole est considérée, mais là je parle sous votre contrôle, comme une des intégrations, l'intégration la plus réussie à l'intérieur de l'Union européenne. Mais il y a une forme d'autocensure de la part des Espagnols qui ne se sentent pas habilités à effectivement participer de la réflexion sur les contours de l'Europe, ses dynamiques. La seule fois où il y a eu un essai, c'est avec José María Aznar, mais c'était un alignement sur les États-Unis et sur Tony Blair. Ça a créé une fracture très forte. Les acteurs de la diplomatie le savent bien, mais les observateurs insistent moins là-dessus. Ça a quand même créé une cassure entre la France et l'Espagne à un moment, et la relation Aznar-Chirac était extrêmement difficile. Alors, même si aujourd'hui les gouvernements s'entendent très bien et il y a une parfaite coopération franco-espagnole, il n'en demeure pas moins qu'il y a la mémoire dans la diplomatie espagnole que les questions européennes, c'est un peu une chasse gardée franco-allemande. Or, on n'aura pas de la part de Mariano Rajoy une capacité de proposition de ce côté-là. Je crois qu'il faut quand même, et je parle avec beaucoup de prudence parce que je ne voudrais pas d'abord faire preuve d'arrogance intellectuelle, mais il me semble que Mariano Rajoy est un président qui ne regarde que les questions espagnoles, qui est d'une prudence qui à certains moments confine à l'immobilisme. C'est pas du tout un visionnaire. Alors, est-ce que la classe politique espagnole sera capable de faire émerger un grand visionnaire comme Felipe González en son temps? Felipe González a été vraiment un grand Européen. Maria Thatcher, dans ses mémoires, dit il n'y en avait que deux qui connaissaient leur dossier, Felipe González et moi-même. Bon, alors je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais effectivement, quand vous êtes 14 ans au gouvernement, je pense que vous finissez par bien connaître les questions européennes. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand même de voir monter quelques petits partis vraiment anti-européen. Alors, c'est le cas en Catalogne avec la CUP, qui veut sortir de l'euro. Podemos, non. Podemos est beaucoup plus prudent parce qu'il sait en réalité tous les liens qui unissent l'Espagne à l'Union européenne. Mais c'est vrai quand même que là, il y a une sorte, non pas de point aveugle, mais d'absence d'initiative de la part de l'Espagne, qui est très étonnant parce qu'il pourrait. Mais je pense que là, c'est une forme de sentiment d'infériorité, alors que quand on compare avec les Italiens, mais ce sont effectivement des fondateurs historiques, les Italiens ne cessent d'avancer des propositions.
En effet, Felipe González était un Européen très actif et qui avait très soigneusement mis à Bruxelles des représentants qui soutenaient admirablement la cause de l'Espagne. Je vais vous poser une question quasi anecdotique, mais on approche de la fin de cette émission. Le Portugal est un pays dont on s'accorde à dire, quoi qu'on le regarde assez peu souvent, il faut bien dire, mais dont on s'accorde à dire qu'il est sur la voie de réformes économiques, politiques, structurelles, etc. Est-ce que ça a un effet sur l'Espagne? Et au fond, derrière cette question, une un peu plus large, quel est l'état des rapports entre le Portugal, enfin, entre l'Espagne et le Portugal?
Alors, structurellement, il y a toujours eu un complexe de supériorité des Espagnols à l'égard des Portugais, de la même manière que les Espagnols ont un complexe d'infériorité par rapport aux Français. Bon. Ce qui est intéressant dans le cas du Portugal, c'est que, je dirais, le Portugal aujourd'hui, c'est une contre-Espagne. Je m'explique. La coalition au pouvoir est une coalition de gauche. Et vous avez une sorte de contre-modèle qui va sans aucun doute inspirer la nouvelle direction du Parti Socialiste Espagnol, car le retour de Pedro Sanchez à la tête du Parti Socialiste Espagnol va sans aucun doute redistribuer les cartes. On va voir dans quel sens. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça va les redistribuer. Et le Portugal, qui lui aussi semble connaître une amélioration conjoncturelle, en tout cas les chiffres ont l'air d'être meilleurs, peut devenir, pour la gauche espagnole, un argument pour se débarrasser de la gestion liée au Parti populaire. Sur le plan des rapports entre Madrid et Lisbonne, ils sont absolument excellents. Mariano Rajoy a effectué au printemps une visite officielle au Portugal. Le roi et la reine d'Espagne ont aussi effectué une visite d'État. Et il n'y a vraiment aucun contentieux entre les deux pays.
Alors, pour en finir sur une de ces... Pardon, Thierry Pêche, vous voulez dire?
Juste une question très courte. Gibraltar sera-t-elle un jour espagnole?
Très courte.
Et alors, c'est un élément fort du Brexit, puisque on sait que dans les négociations, la position de Madrid, c'est très clair. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, Gibraltar, tout est à revoir, tout le statut est à revoir. Donc, le gouvernement de Gibraltar essaye de négocier, d'être très, d'attirer l'attention de Londres sur le statut particulier. Donc, il y a des tensions assez fortes. C'est vraiment, c'est plus qu'un caillou, c'est une épine dans les relations entre Londres et Madrid. Je crois pas, les Anglais étant ce qu'ils sont, je ne crois pas que Gibraltar redeviendra à terme espagnol, mais je crois effectivement que les Espagnols ne cesseront d'insister sur l'anomalie que représente à leurs yeux cet héritage de l'histoire. Là où ils sont un peu gênés, c'est qu'à ce moment-là, les Marocains leur disent Ceuta et Melilla.
Ah oui,
bon,
ça,
donc
oui.
le détroit était étroit.
Et alors, pour finir par l'aspect gala ou closer, toujours ignoré à France Culture, mais qui mérite d'être quand même de temps en temps revivifié, qu'en est-il du nouveau roi ? En quoi réussit-il ? En quoi ne réussit-il pas ? Et comment est-ce que cette monarchie, qui a joué un rôle si considérable, notamment au moment du coup d'État du colonel Tejero, comment cette monarchie agit-elle ?
Alors, c'est pas une question closer ou gala, parce que c'est la clé de voûte des institutions, la représentation. Mmh. On constate que en 2012, la figure de Juan Carlos et la vision que les Espagnols ont de la monarchie est tombée extrêmement bas. Il n'y a plus que 37% d'approbation pour la monarchie, au point que l'organisme qui fait des sondages...
La corruption touche considérablement.
Je vais y venir. Mais on constate que les sondages montrent que le changement de titulaire de la couronne a renforcé la vision de la monarchie, et qu'aujourd'hui, l'institution monarchique est acceptée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à l'intérieur de la famille. On l'a vu avec la condamnation du beau-frère du roi Philippe, Iñaki Urdangarin, qui a été condamné à 6 ans et 3 mois de prison, à 500 000 euros d'amende. Il était accusé d'avoir détourné près de 8 millions d'euros. C'est une condamnation qu'il n'a pas encore effectuée parce que ce sont des peines inférieures à 2 ans qui s'accumulent, et donc ces avocats sont en train de plaider, quand vous êtes condamné à moins de 2 ans, vous ne les faites pas. Et donc ils sont en train de dire, en fait, il n'y a pas de condamnation supérieure à 2 ans. Ce qui va sans doute poser un petit problème, c'est devant le tribunal suprême, donc on aura la réponse d'ici quelques mois. Il est clair que la manière dont le voile s'est déchiré autour des dynamiques de la famille royale porte atteinte à l'image que l'on peut avoir du souvenir de Juan Carlos, mais la figure Philippe VI fait admirablement son travail, et il a beaucoup appris, je crois que c'est quelqu'un qui a été extraordinairement observateur, et donc actuellement, je dirais, il fait carton plein.
Je vous remercie beaucoup et merci de nous avoir éclairés sur l'Espagne. C'était donc L'Esprit public dans la série des thématiques d'été avec Benoît Pellistrandi. Une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Pascal Bénard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle émission thématique dans notre série d'été.